Bonjour à chacune et à chacun. Nous reprenons ce matin notre parcours dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a deux semaines, avec notre pasteur Nicolas Michel, nous avions vu comment Paul et Silas avaient été arrêtés et mis en prison à Philippe de Macédoine. Philippe de Macédoine est ici. Et ils avaient été mis en prison parce qu'ils avaient délivré une femme de sa folie divinatoire. Un tremblement de terre violent les a libérés de leur chaîne. Le geôlier les a accueillis chez lui et s'est converti avec toute sa famille. Puis Paul et Silas quittent Philippe après avoir pris congé de l'église naissante qui se réunissait dans la maison de Lydie, une marchande de pourpre, toute jeune convertie elle aussi, c'était la première chrétienne d'Europe. Et Paul et son équipe quittent Philippe et vont à Thessalonique, pas très très loin d'ici. Et nous lisons au début du chapitre 17, après avoir cheminé par Amphipolis et Apollonie, Paul et Silas arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul s'y rendit selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures dont il ouvrait le sens pour établir que le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. « Ce Jésus que moi je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'une grande multitude d'adorateurs grecs et nombre de femmes parmi les notables. Mais les Juifs, animés d'une passion jalouse, prirent avec eux quelques mauvais garçons parmi la populace. Ils provoquaient des attroupements et de l'agitation dans la ville. Ils assiégèrent la maison de Jason en cherchant Paul et Silas pour les amener devant le peuple, mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant « Ces gens qui ont bouleversé toute la terre habitée sont maintenant ici » et Jason les a accueillis. Ils agissent tous à l'encontre des décrets de César en disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu une caution. Il y a une synagogue à Thessalonique et c'est là que le lieu de contact pour Paul avec les Juifs de l'endroit. L'évangile que Paul annonce trois sabbats de suite porte des fruits et c'est très appréciable que l'on ait en quelques mots un résumé de son message. Pendant trois sabbats, Paul discuta avec eux à partir des Écritures pour établir que le Christ devait souffrir et se relever d'entre les morts. Ce Jésus que moi je vous annonce, c'est lui le Christ. Donc on voit que sa prédication est centrée sur l'œuvre du Christ, telle qu'annoncée dans l'Écriture, notre Ancien Testament. Mais comme le plus souvent, lorsque Paul parle aux Juifs, l'acceptation n'est pas unanime. Mais une partie de l'auditoire rejette violemment le message. Et on a quelques détails intéressants sur ce qui s'est passé. Les opposants à Paul et Silas recourent à des vauriens errants pour manifester bruyamment et alerter les autorités de la ville. Au verset 7, nous lisons de Paul et des siens, « Tous ces individus agissent à l'encontre des édits de l'empereur. Ils prétendent qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est intéressant. Ces juifs qui manifestent ont en fait très bien compris. Il y a un autre roi, Jésus. Une autorité qui conteste celle de l'empereur. Et s'ils avaient été conséquents avec leur foi juive, la foi dans le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, aurait aussi dû contester l'autorité suprême de l'empereur. Mais ils refusent l'appel de Jésus à se soumettre, à se remettre en question, et ils préfèrent leur statu quo, dans lequel ils s'accommodent à la fois de la soumission à l'empereur, mais qu'ils se revendiquent, tout en se revendiquant certainement, d'être des juifs fidèles. Bref, ils ont une attitude trouble. Et pour notre vie à nous, je crois que c'est une mise en garde à ne pas nous opposer à un appel de Jésus au nom de la sauvegarde d'un certain statu quo jugé plus sécurisant. La situation à Thessalonique est très tendue, même violente, et Paul et Silas fuient cette ville de nuit pour aller à Béréée. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béréée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre. Arrivés à Béréée, Paul et Silas se rendent à la synagogue des Juifs, selon leur coutume. Et on a lu, là, l'accueil est bien meilleur qu'à Thessalonique. Les habitants de Béréée sont intelligents et ouverts. Ils ne croient pas l'enseignement de Paul sans vérifier par eux-mêmes que ce qu'ils entendent est fondé bibliquement. Chaque jour, ils étudient les Écritures pour s'assurer que ce qui leur est enseigné est bien correct. Et cette assiduité à étudier la Bible, eh bien, elle porte ses fruits. Ce n'est pas une adhésion sentimentale au charme d'un beau parleur, dans une ambiance savamment préparée pour captiver l'auditoire. Non, les gens de Béréée sont convaincus qu'ils ont eux-mêmes parce qu'ils ont eux-mêmes participer à s'assurer que ce qu'on leur disait à propos de Jésus et de son œuvre était vrai. Et je crois qu'il y a là un enseignement pour nous, une invitation à l'étude de la Bible personnelle et en Église, pour que ce que nous croyons quant au salut s'appuie non pas sur nos sentiments ou nos expériences, mais bien sur l'enseignement du Christ et des apôtres. Périodiquement, on voit notre monde évangélique balayé par une vague d'enseignements prétendument nouveaux ou redécouverts, et ils se fondent souvent sur peu d'éléments bibliques. Un peu d'étude des textes les replace à leur juste place. Pour ne pas s'égarer, il faut réfléchir et étudier la Bible. Et ça, c'est une pub que je fais pour le Fruit College, la formation pour adultes de nos églises. Il y a toute une collection de papillons à la sortie. Et vous savez que Béréée, c'est le nom d'un chemin qui existe encore à Lausanne, dans le haut de la ville, près de Vennes. Un chemin de Béréée maintenant très peuplé. Et il était autrefois sur la propriété des fondateurs de la Ligue pour la lecture de la Bible et de l'Institut biblique Emmaüs. Et c'est eux qui ont donné à leur chemin le nom de Béreille. Et moi, j'y vois une prière pour ceux qui aujourd'hui habitent ce chemin, pour qu'ils découvrent la joie de l'étude de la parole de Dieu. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent qu'à Béreille aussi Paul annonçait la parole de Dieu, ils vinrent là encore pour soulever et troubler les foules. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Mais Silas et Timothée restèrent là, ceux qui escortaient Paul, le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus tôt. Donc, depuis Béreille, qui est ici, Paul, par bateau, est descendu jusqu'à Athènes. Et puis, ses compagnons qui étaient avec lui sont remontés à Béreille pour y chercher Paul et Silas et Timothée. Les agitateurs de Béreille, de Thessalonique, vont à Béreille, donc, pour y propager le trouble et la violence. Alors Paul part en bateau pour Athènes avec quelques-uns et il renvoie ses accompagnateurs pour qu'ils aillent chercher Timothée et Silas. Donc Paul reste seul à Athènes pour y attendre ses compagnons. Tandis que Paul les attendait à Athènes, la vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. Il discutait donc avec les Juifs et les adorateurs dans la synagogue, mais aussi chaque jour avec ceux qui se trouvaient sur la place publique. C'est la première fois dans le livre des Actes que l'on voit Paul s'adresser non seulement aux Juifs dans la synagogue, mais aussi aux païens sur la place publique. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, vinrent parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire cette jacasse ?» D'autres « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous souhaiterions donc savoir ce que cela veut dire. » De fait, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux passaient tout leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Dans ce passage, il y a plusieurs termes techniques qu'il faut très brièvement expliquer. Les épicuriens, les stoïciens et l'aréopage. À l'époque de Paul, Athènes n'est plus une grande puissance politique, mais elle reste une ville de haute culture, une ville académique. Deux philosophies principales imprègnent la pensée des gens. Elles ont toutes les deux leur origine environ 300 ans avant Jésus-Christ. Toutes les deux proposent une recherche du bonheur personnel, mais chacune par un chemin différent. Ce brave homme, cet Épicure, environ 300 ans avant Jésus-Christ, qui est le fondateur de la tendance de l'épicurisme, qui vise à atteindre au bonheur par la satisfaction des plaisirs naturels. Il développe une morale visant à éviter la douleur dans le monde qu'il juge gouverné par le hasard. Le stoïcisme, fondée par Zénon de Kition, ce brave barbu a l'air tristounet. Le stoïcisme, lui, s'appuie surtout sur la tempérance et le détachement obtenu grâce à la raison aussi. Alors pour les choses qui ne dépendent pas de nous, il est vain de lutter. On doit supporter et accepter, bref, être stoïque. Ces deux écoles philosophiques sont donc rationalistes et humanistes. Mais toutes les deux refusent la croyance en un Dieu personnel, distinct de l'univers créé, de l'univers visible. L'Aréopage est une colline d'Athènes à l'ouest de l'Acropole. C'est aussi le nom de l'assemblée qui s'y réunit, qui est ouverte au public. Il s'agit d'une trentaine d'anciens magistrats ayant terminé leur mandat, et ils sont choisis pour leur bonne réputation. Ils exercent la justice et légifèrent sur les matières sociales et religieuses. Et l'Aréopage jouit d'une très grande autorité morale dans la ville d'Athènes. Désolé, c'est un peu flou. Voilà l'agora, la place publique où Paul discutait avec les passants. Voilà l'Acropole, le sommet de la colline d'Athènes. Et puis, l'Aréopage est ici. Et ça pouvait peut-être ressembler à cela. L'Acropole ici et l'Aréopage ici au premier plan. Alors on va lire maintenant le discours que Paul fait dans ce lieu. Debout au milieu de l'Aréopage, Paul dit: Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi, je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. D'un seul être, il a fait toutes les nations des humains pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'il cherche Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi sa lignée. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des humains. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu enjoint maintenant à tous les humains, en tout lieu, de changer radicalement, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le relevant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent et d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Le discours de Paul sur l'Aréopage était certainement plus long que ce que nous avons lu. Mais on en a probablement l'essentiel. Paul s'adresse à des païens, à des citadins, à des gens cultivés. Et ce discours me paraît exemplaire quant à la méthode et l'approche que Paul utilise. Lorsqu'il s'adresse aux Juifs, Paul a en commun avec eux toute la culture religieuse dont il était un grand spécialiste. Lui-même pharisien, formé au pied de Gamaliel, qui était un très éminent théologien juif. Avec les Juifs, Paul peut directement partir de l'histoire d'Israël. Le Dieu créateur, les patriarches, la loi et les prophètes. Il peut assez rapidement parler de Jésus et démontrer que sa venue est l'accomplissement des prophéties des Écritures. Puis il démontre que Jésus est le Messie attendu et que sa mort et sa résurrection ouvrent le salut pour tous les hommes, juifs et non-juifs. On a vu qu'à Thessalonique et à Béréie, malgré les oppositions, beaucoup acceptaient son message parmi les Juifs. Mais parmi les païens d'Athènes, la situation est toute différente. À Athènes, on a vu que Paul n'est pas resté caché dans sa chambre d'hôtel pour éviter de se polluer. Mais il a visité la ville minutieusement pour en découvrir les mœurs et les croyances. Cette découverte l'a beaucoup fait souffrir. Les nombreuses divinités représentées par leur statue et leur autel témoignent d'une grande soif de religiosité, mais d'une religiosité très inquiète. La preuve est cet autel consacré à un dieu inconnu. On a beaucoup de divinités que l'on sert aussi bien que possible, mais si jamais on en manquait une. L'autel à un dieu inconnu est une assurance complémentaire. Et c'est là le point d'accrochage de Paul face à l'Aréopage. Au verset 23, nous lisons debout au milieu de l'Aréopage, Paul dit « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. » Notez que Paul est très respectueux de son auditoire. Il est même flatteur. Vous êtes extrêmement religieux. La souffrance qu'il a ressentie en voyant fleurir les idoles et qui égare ses auditeurs, cette souffrance chez Paul n'apparaît pas du tout dans son discours. Il n'a pas trace d'un discours moralisant. Paul est très bienveillant. Et il développe en parlant du Dieu créateur que l'on ne peut pas représenter par des statues et des œuvres d'art. Il cite même des poètes grecs, donc il les connaît. Et il annonce aux Athéniens plusieurs choses très positives. Dieu nous donne la vie, le souffle et toutes choses. C'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes, au verset 28. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. On peut trouver Dieu en tâtonnant, verset 27. Et les humains sont la lignée de Dieu. Dieu est aussi maître du temps et de l'histoire. Il va bientôt juger toute la terre habitée par un homme qu'il a désigné et qu'il a qualifié pour cela. Chacun doit se préparer à cet événement en changeant de comportement. Donc Paul s'adapte autant qu'il le peut à son auditoire. Et par un discours simple, il cherche à le sensibiliser au fait que le monde est dirigé par Dieu, créateur de toutes choses et des humains. Au sujet de Jésus, il ne mentionne même pas son nom. Il dit que le jugement de Dieu sera exercé par un homme que Dieu a qualifié pour cela. Qualification attestée par sa résurrection d'entre les morts. Mais l'auditoire ne comprend pas et à ce moment-là, il décroche, entraînant soit des moqueries, soit un intérêt poli. Vous avez remarqué que non seulement le nom de Jésus n'est pas mentionné, mais que ce que Jésus a dit et fait en mourant sur la croix, le jugement du péché, l'expiation des péchés, Paul ne dit rien sur ces sujets importants. Et là, je crois qu'il y a un exemple à suivre. Savoir se restreindre juste à un élément ou deux de l'Évangile, en se plaçant au niveau de ce qui est accessible éventuellement aux auditeurs. Servir en résumé de l'épître aux Romains à des gens vivant sur une autre planète est inutile. Paul a une attitude très bienveillante envers ses auditeurs. Il n'y a pas trace d'un sentiment de supériorité, mais il se place au même niveau qu'eux. Le Dieu créateur nous donne la vie. Il est proche de chacun de nous. Le jugement qui va s'exercer pour établir la justice sur la terre est une bonne nouvelle. Que chacun s'y prépare en se tournant vers Dieu. Alors que nous puissions nous aussi avoir cette attitude très respectueuse et positive envers tous ceux que nous côtoyons. Voir quelqu'un dont Dieu n'est pas loin et pour lequel il a des bons projets. Le discours de Paul a porté ses fruits, mais pas en grand nombre comme dans d'autres contextes. Et je trouve que cela nous rassure, parce que des difficultés à annoncer l'Évangile existaient déjà à l'époque. Mais quelques-uns ont cru, Damaris, Denis l'Aréopagite et quelques autres. Pour que leurs noms soient mentionnés, Denis et Damaris ont certainement eu ensuite un engagement dans l'Église, engagement dont on s'est souvenu puisqu'on mentionne leur nom. Alors comme Paul nous y invite, n'oublions pas que le Christ revient bientôt établir son règne de justice et de paix. Alors soyons donc chacune et chacun promoteurs de justice et de paix dans son Église et par son Église. Amen.